Alors, on est dans Corinthiens, chapitre 13. Donc, dans le chapitre précédent, on a vu que l'Église est un corps et nous sommes chacun des membres. On a vu aussi que chaque membre a des fonctions différentes, elle peut opérer différentes choses. Et donc, de fait, on est complémentaires et en même temps, on est interdépendants. On a besoin les uns des autres. Et c'était une chose importante à relever pour ces frères et sœurs de Corinthe, parce que dans l'Église, il y avait du favoritisme. Il pouvait y avoir une sorte de mépris ou un manque d'égard des uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un problème qui est récurrent, qui est dans le cœur de l'homme, parce que nous sommes des pécheurs. Et donc, si Paul en parle, eh bien, ça veut dire qu'aussi, à cause de notre nature pécheresse, on peut trouver aussi ça. Ici, dans l'Église, c'est possible. Le péché nous porte malheureusement à de l'égoïsme, à de l'individualisme. Et dans une assemblée, donc à l'époque, où on recherchait beaucoup les charismes, beaucoup les dons voyants, Paul leur dit, chapitre 12, verset 13, il leur dit d'abord « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Quelle est cette voie par excellence ? Celle qui compte plus que tous les dons. Et donc, on va lire ce chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ici il y a la charité, c'est une autre traduction, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On ne va pas tout développer ici de ce chapitre, mais on va se concentrer sur surtout la première partie pour ce matin. Et c'est très facile de se focaliser sur beaucoup de choses qui nous semblent vraiment importantes, peut-être primordiales, essentielles. Et c'était le cas donc de ces Corinthiens qui, eux, l'accent était mis sur les langues, sur la prophétie, sur la connaissance, et pour eux c'était crucial pour l'Église de Jésus-Christ. C'était comme ça que l'Église allait réussir à avancer, à progresser. Mais là, Paul leur met un coup d'arrêt, imaginez pour eux qui étaient vraiment portés vers ces choses, il y a un coup d'arrêt, et il leur rappelle qu'il n'y a qu'une seule chose vraiment importante, c'est aimer, c'est l'amour. Et c'est vrai que nous-mêmes, on peut parfois être très préoccupé par plein de choses dans notre vie, parce que voilà, c'est la vie, hein. On a plein d'activités, on a des responsabilités qui sont familiales, des responsabilités parfois professionnelles, on a des devoirs, parfois on a même des loisirs, voire des plaisirs, ou même on peut être occupé dans des bonnes œuvres, on peut faire plein de choses, avoir de la générosité, avoir même un esprit de sacrifice, et c'est très bien, mais Paul dit: est-ce que finalement il y a de l'amour dans tout ce que vous faites, en fait, dans ce que vous êtes? Est-ce qu'on recherche l'amour dans notre vie? Est-ce que c'est là où se concentrent nos efforts aimés? Et on sait quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus dit le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on connaît ça. Bien sûr, on l'a entendu plein de fois. Mais est-ce que c'est vraiment là les deux objectifs, les deux priorités, les deux buts vraiment de notre vie? Que ma vie, c'est vraiment aimer Dieu et c'est vraiment aimer mon prochain, aimer mon semblable. Est-ce que vraiment c'est ça mes deux objectifs? Est-ce que c'est ce que je désire le plus au monde? Et si c'est vraiment les deux plus grands commandements, logiquement, c'est ce que nous devrions rechercher et désirer le plus. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Dans notre chapitre ici, Paul commence par dire qu'une vie sans amour, une vie où on n'aime pas, c'est une vie qui est désagréable, c'est une vie qui n'est que néant, et c'est une vie qui ne nous apporte rien. Donc on va voir d'abord ces trois choses successivement. D'abord, c'est une vie qui est désagréable. Regardez, il dit verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et on trouve dans les écrits antiques la mention de grosses marmites en airain. Et on a retrouvé même, par l'archéologie, certaines de ces marmites, notamment à Dodone. Et on sait que ces marmites, ces grosses marmites, étaient mises les unes à côté des autres. Et en fait, soit parce qu'on tapait dessus, soit par l'effet du vent parfois, ces marmites se cognaient les unes aux autres et transmettaient le son. Et c'était un son qui était continu comme ça, un bourdonnement. Et même les prêtres païens pensaient pouvoir entendre là la voix de Dieu, déchiffrer les paroles divines du ciel. Et il y avait une expression qui était « être un airain de Dodone ». Et on trouve donc dans les écrits antiques qu'une femme bavarde pouvait être comparée à l'airain de Dodone. C'est-à-dire qu'il va retentir comme ça toute la journée, simplement dès qu'on pousse un petit peu, ça continue comme ça, à l'infini. Et c'est vrai qu'on peut être très habile de la langue, on peut parler, on peut même bien parler, mais si on n'a pas l'amour, alors on est comme un airain qui résonne comme ça. Et ça résonne encore, c'est un bruit sourd, un bruit de fond, mais finalement, à la langue, c'est pas harmonieux, c'est même désagréable. Et c'était le cas dans l'église de Corinthe, hein, puisqu'il y avait toute cette cacophonie avec ces langues étrangères que l'on parlait les uns les autres, et ça devenait un bruit sourd, mais il manquait l'amour. Paul dit encore que c'est une cymbale qui retentit. C'est une cymbale, c'est assez beau extérieurement, ça brille. Hein. Quand vous faites un son comme ça, ça va. Hein. Quand c'est dans un orchestre, c'est même beau. De temps en temps, les cymbales retentissent. Maintenant, si vous tapez d'une cymbale, vous l'entendez comme ça tout le temps, ça commence à irriter. À la fin, vous dites, bon, allez, stop, là, j'ai une tête comme ça, c'est bon, on s'arrête ici. Et parler, c'est bien, mais aimer, c'est surtout le plus important. Ensuite, il dit que s'il n'y a pas l'amour, alors, eh bien, c'est néant. Verset 2, il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et Paul reste dans le sujet ici. Hein. Il dit « Mais qu'importe de rechercher le don de prophétie, à être un prophète, hein, qu'importe de recevoir des révélations et de connaître les mystères de Dieu, qu'importe même d'avoir toute la connaissance, imaginez ça. » Quelque chose, d'avoir toute la connaissance biblique. Il dit, mais tout ça, c'est vain s'il n'y a pas l'amour. Et je me souviens, peut-être j'avais 2-3 ans de conversion, j'étais encore là tout bouillant, être heureux dans la joie du salut. Et un jour, je sors du RER, dans la région parisienne, et je vois des hommes, il me semble 3 hommes, qui étaient en train de lire la parole de Dieu. Et et il y avait la foule des gens qui passaient et ils lisaient la parole de Dieu, voilà, distincte. Et moi, j'ai dit, mais c'est merveilleux dans cette ville-là où il n'y a rien, c'est sec, c'est vide. Et d'entendre la parole de Dieu et ils n'ont pas honte et voilà, ils lisent. Et ça peut toucher quelqu'un et je me suis approché de l'un d'eux qui ne lisait pas. Et pouf, j'ai été refroidi. Hein. Parce que j'ai eu un accueil glacial dès qu'il a compris que je n'étais pas une âme à sauver, mais quelqu'un d'une autre dénomination. Et donc ça s'arrêtait là. Et on peut avoir beaucoup de connaissances hein, et de la Bible. Et s'il n'y a pas l'amour, alors ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme, on devient comme une coquille vide. Ou bien encore, il dit, on peut avoir une foi immense jusqu'à transporter des montagnes. Donc il reprend la parole de Jésus des évangiles et Paul dit, si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. Et c'est très touchant de voir que cette exhortation va venir de Paul lui-même. Paul, qui est quand même celui qui est arrivé à transporter des montagnes par la foi, hein. Il a fait des choses extraordinaires. Et puis si on regarde la vie de Paul, et on recule encore en arrière, et on regarde Saul de Tarse. Saul de Tarse qui était un religieux, qui aimait Dieu à sa manière, mais qui aussi était violent, dur. En fait, il n'aimait pas. Et les années ont passé, et maintenant il dit, mais le plus important, c'est aimer. C'est aimer. Même la foi, eh bien d'abord il faut aimer. L'amour est ce qu'il y a de plus important. Ça ne signifie pas que l'amour peut remplacer la foi ou la connaissance. Paul n'est pas en train de dire, si vous voyez quelqu'un qui aime, il a tout compris. Qu'importe la foi, qu'importe la connaissance, il aime, donc c'est bon, tout va bien. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire plutôt que celui qui a déjà la foi, celui qui a la connaissance, alors si celui-là n'aime pas, alors eh bien, il n'y a rien. Parce que normalement, eh bien, cette foi et cette connaissance devraient le porter à aimer son prochain. Ça devrait être le moteur de sa vie, sinon il n'est que néant. C'est un peu comme un médecin ou un chirurgien qui est tellement concentré sur son travail qu'il fait les choses mécaniquement. Et finit par ne même plus aimer les patients, ou ne pas avoir d'attention, pas avoir d'intérêt pour les. Voilà, hop, un corps de plus, suivant. Et nous, en tant que chrétiens, on peut être aussi un peu comme ça, c'est possible. On peut pratiquer un don, on peut faire des choses pour Dieu, et puis on a perdu de vue. Mais l'important, c'est d'aimer ceux qui nous entourent. Enfin, Paul dit qu'une vie sans amour, elle ne nous apporte rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et c'est incroyable ici parce que c'est des actions qui semblent être la manifestation de l'amour. Donner tous ses biens pour la nourriture des pauvres, parce que c'est pas une preuve qu'on aime. Non. Il dit même donner sa vie, mourir, à faire preuve d'abnégation, de sacrifice. En fait, il dit qu'on peut faire ces choses sans qu'il y ait l'amour. Il n'y a pas l'amour. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent faire des choses incroyables, peuvent être très, très généreuses, elles peuvent se donner de leur temps. Et pourtant, elles n'aiment pas réellement ou elles n'ont pas l'amour véritable. Quelqu'un a dit une chose, il a dit, il y a une différence entre chercher à plaire et chercher à faire plaisir. Chercher à plaire et chercher à faire plaisir. Et c'est subtil, hein, mais parfois il faut aller regarder un peu quels sont nos mobiles, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi nous faisons une chose? Est-ce qu'on fait vraiment la chose dans le désir de faire plaisir? Ou finalement il y a peut-être quelque chose de caché? Un désir de plaire, un désir d'être aimé, un désir d'être reconnu, d'être accepté, d'être bien vu. Il faut se poser la question. le but le plus élevé, c'est faire plaisir. Faire plaisir à Dieu, premièrement, faire plaisir à Jésus-Christ et faire plaisir à notre prochain. Dans ce verset, Paul souligne aussi qu'on peut faire des choses en pensant, au final, mériter quelque chose. Je fais, donc je mérite la récompense, je mérite de recevoir plus d'égards, plus d'attention, peut-être même je mérite une place au ciel. Paul dit non, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il y a du profit, par exemple si je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, il y a du profit pour les pauvres. Mais il n'y a pas de profit pour moi s'il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour derrière, alors ce n'est aucun profit. Et puis Paul définit ce qu'est l'amour. 1 Corinthiens 13, donc verset 4, il continue. Il dit, l'amour est patient. Voilà. C'est la première vertu là, qu'il va mettre en avant. L'amour est patient, la patience. Jusqu'à quel point sommes-nous patients? Et je pense que pour qu'on se rende compte de ce qu'est la patience, il faut penser un petit peu à l'attitude de Dieu à notre égard. Quand on regarde toute notre vie et le nombre de fois où on est tombé, où on a chuté, le nombre de fois où on a oublié ce qu'il nous avait dit. Et on a refait, commis de nouveau la même erreur. Le nombre de fois où on a fait ce qu'on ne devait pas faire, où on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et pourtant, il est toujours resté là avec nous, à nos côtés. Le nombre de fois où j'ai attristé les hommes, où nous avons attristé les hommes, et pourtant, il ne nous a pas quittés. Il est resté là en nous. Le nombre de fois où il était fidèle et juste pour nous pardonner. On ne peut même pas compter là. C'est impossible. Et on peut dire que Dieu révèle son grand amour dans la patience qu'il a vis-à-vis de nous. De l'autre côté, il attend de nous qu'on exerce la même patience vis-à-vis de nos frères et sœurs. Parce que nous, combien nous pourrons être promptes à, quand nous croyons voir ou quand nous voyons quelque chose qui ne va pas chez l'autre, on se dit, il faut le dire, il faut lui révéler la vérité sur lui-même. Il ne le voit pas ou elle ne le voit pas, je vais lui dire. Hein? Allez, on prend les choses à bras-le-corps et puis on est direct. Et souvent, tel un scalpel, on prend notre langue et puis on coupe, on blesse, on... du mal. Et on est bien loin de l'exemple de Jésus. Alors certes, Jésus a repris ses disciples. Et même le Nouveau Testament dit que parfois, on se reprend les uns les autres. On se dit les choses les uns aux autres. Mais en même temps, combien de fois Jésus a supporté et patienté vis-à-vis de ses disciples? Et combien de fois patiente-t-il à notre égard aujourd'hui? Parfois, je me tourne en arrière et je regarde ma vie. Et je me dis, tiens, ce péché, auparavant, c'était dans ma vie. Je me souviens bien, c'était là. Et puis là, ça a disparu. C'est tombé comme une branche morte. Voilà, Dieu m'a libéré, m'a complètement libéré de ça. Et puis je pense, Seigneur, comment tu as pu supporter ce que je faisais pendant ces années-là? Ces années où tu n'as rien dit, où tu es resté patient, où tu as attendu, et tu n'as rien dit. Tu n'as pas froncé les sourcils, tu ne m'as pas repris à chaque page de la Bible, tu as patienté. Tu as attendu ma maturité, tu as attendu ma croissance, tu as attendu le moment favorable pour me dire ça. Maintenant, on arrête. Je veux que tu sois libre. Et ça nous renvoie aussi à nos frères et sœurs. Si Dieu use de patience comme ça à notre égard, si lui ne nous reproche pas tous nos péchés le jour de notre conversion, imaginez ça. Il y en a, hein? des habitudes, des choses que nous faisons, que petit à petit Dieu nous libère de notre vie. Mais il prend une vie pour le faire. Une vie. Alors, eh bien, nous, comment nous pourrions, voilà, tout sortir et tout reprocher à une personne? Ou bien prendre à la gorge et dire, qu'est-ce que tu me dois? Fais ce que tu me dois. Seigneur dit non. Hein. Non. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est l'amour en action. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a passé beaucoup, énormément de temps à user de bonté envers l'un et l'autre. Il est dit, hein, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc il faisait du bien, et chaque fois qu'une âme l'arrêtait, demandait son aide, portait secours, hein, il agissait. Et la bonté, elle se manifeste par un cœur qui s'élargit. Il s'élargit en fait pour laisser entrer dans notre cœur les personnes, hein, les accepter dans notre cœur. Alors que le contraire, c'est un cœur qui va se rétrécir. Et c'est touchant parce que l'apôtre Paul va en parler aux chrétiens de Corinthe dans sa deuxième épître. Il va leur dire, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Vous avez de la place dans mon cœur. Et il dit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Et notre cœur, il peut soit s'élargir et on accueille ceux qui nous entourent. Comment ça se traduit? Par un intérêt. On se soucie de l'autre. On est attentionné. On va prier pour l'autre. On va avoir le souci du bien de l'autre. Il a une place en nous. Ou bien notre cœur peut se rétrécir. Et comment ça se traduit? Et bien là, c'est l'ignorance. Édition, on se désintéresse, on maintient une distance. Paul, il n'avait plus de place dans le cœur de certains Corinthiens. Terminé. Leur cœur, c'était réduit. L'amour est plein de bonté. Il reste attentif à l'autre. Il accueille l'autre. Il dit encore, l'amour n'est point envieux. Et l'amour est généreux. L'amour va vouloir le bonheur, il va vouloir le succès, la réussite, l'abondance de son frère, de sa sœur. Mais malheureusement, l'envie qu'on porte peut tuer l'amour. Et ça peut exister dans notre cœur. Et c'était peut-être le sentiment qu'il y avait dans l'apôtre Pierre, dans le cœur de l'apôtre Pierre, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, et versets 20 et 21. Donc Jésus vient de dire à Pierre quelle sera la fin de sa vie. Il va mener une vie difficile. On va le prendre, on va l'emmener là où il n'avait pas envie. Et à ce moment-là, il est dit, Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et Pierre était curieux de savoir quelle serait la fin de Jean. Mais pourquoi? Parce qu'il savait bien que Jésus aimait Jean. Alors il se dit, mais finalement, est-ce que lui, il ne va pas avoir une fin meilleure que la mienne? Mais l'amour n'envie pas l'autre. Il va se réjouir du bien qui peut être fait à l'autre. Et en y réfléchissant, je pensais à mes enfants et à nos enfants. C'est un bon exemple. C'est un amour naturel qu'on porte pour nos enfants. Le résultat, c'est qu'on se réjouit de voir nos enfants qui nous dépassent, qui vont plus loin, qui reçoivent davantage, bien plus que nous on a pu recevoir, parce que leur bonheur, on dit, mais c'est mon bonheur. Quand eux, ça va bien, moi, je suis très heureux. Et c'est ça, aimer. C'est se réjouir du bonheur de l'autre plutôt que d'envier son bonheur. Il n'y a pas de rivalité avec celui qu'on aime. Il y a un exemple dans la Bible. C'est avec trois hommes, David, Saül et Jonathan. On voit Saül qui ne supporte pas que David, le roi David, futur roi David, puisse être béni. Il veut le tuer. Il y a de la haine. Et de l'autre côté, c'est très touchant de voir Jonathan. Jonathan qui est le fils du roi. On pourrait dire, mais le successeur, en fait. Hein. C'est, voilà, la suite est pour lui. Mais il voit David qui est béni de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne son manteau. Il lui donne ses vêtements de prince. Il lui donne son épée, son arc, sa ceinture. Tout ce qui fait de lui le prince, en fait. Il lui donne. Pourquoi? Il est dit que Jonathan aimait David comme son âme. Il l'aimait. Alors, il veut lui donner. Il veut lui donner. C'est son amour qui le porte à vouloir le bien de David, même si c'est au détriment du sien. Ensuite, il dit, « L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. » Et en quoi l'orgueil peut être quelque chose qui tue l'amour? Parce que l'orgueil cherche à attirer l'attention sur sa personne. Mais si quelqu'un éprouve le besoin d'épater, de surprendre, de se mettre en valeur, sans s'en rendre compte, eh bien, il prend la place et il efface les autres. Forcément, quand on va crier « Regardez-moi !» on ne regarde plus les autres. Donc on attire tout vers soi au lieu de permettre à chacun eh bien, de recevoir quelque chose, d'avoir une place, d'être, d'exister en fait, d'exister. La Bible dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche. » Et c'est une chose lorsque quelqu'un nous dit « Toi, viens, monte ici. » Et c'en est une autre quand on dit « Je vais monter là. » Pas pareil, hein. Le Seigneur le dit dans cette histoire qu'il raconte au sujet de la place, hein. Quand tu arrives à un repas, va pas chercher à te mettre à la première place, mais prends plutôt la dernière. Et attends que eh bien, quelqu'un te dise, tiens, enfin, le maître du repas lui dit, viens, monte ici. Ou bien il y a encore cet exemple de Jacques et Jean qui voulaient être tous les deux à la droite et à la gauche du Fils de Dieu. Et le Seigneur n'a que deux côtés, il n'en a pas 12. Donc forcément, prendre les deux côtés, c'est exclure les 10 autres des côtés que le Seigneur peut avoir. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et quels étaient ces sentiments? Jésus nous dit dans sa parole, il est descendu, il s'est humilié et il est devenu un serviteur. Ensuite, verset 5, il dit « L'amour ne fait rien de malhonnête. » C'est-à-dire, il ne fait rien qui ne serait pas honnête vis-à-vis de l'autre. Darby a traduit par « L'amour n'agit pas avec inconvenance. » Il n'est pas inconvenant. Et c'est vrai que la vie sociale fait qu'il y a des convenances entre nous. Il y a de la bienséance, des usages, on vit ensemble. Donc, il y a une vie sociale qui s'organise autour de règles, autour d'habitudes, de respect des uns et des autres. Et l'amour va respecter tous ces usages. Il va agir en respectant l'autre et en acceptant sa manière de fonctionner, sa manière d'être. On sait ce qui déplaît. Par exemple, quand j'ai un coup de fil à passer, s'il est tard, je sais qui je peux appeler. Et certaines personnes, je ne les appellerai pas après 9h. D'autres, je sais, 9h30, ça va. D'autres, je sais, 10h30. Maintenant, je vais appeler personne à minuit pour lui demander une futilité. Au moins que ma maison brûle, où c'est important. C'est vraiment important. C'est pareil pour... Dans les relations que l'on a les uns avec les autres, on sait ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Il y a des convenances. On peut serrer la main, je peux serrer la main d'une femme, mais je ne vais pas lui mettre la main sur le bras, ou un homme, je ne vais pas lui mettre la main sur la tête. On sait ce qu'il faut. Hein. Il y a plein de petites règles comme ça, tacites, qui fait que on se respecte et on s'aime les uns les autres. On va faire la bise à certains. Parfois, on peut prendre dans les bras. Aux États-Unis, on est plus habitué à se prendre dans les bras. Mais on sait aussi avec qui on le fait. Hein. La dernière fois, il y avait Roland, je l'ai pris dans mes bras, il est serré. Ah, il y a une marque d'affection. Et c'est sûr qu'entre femmes, entre hommes, il va y avoir, voilà, selon le degré d'intimité des uns avec les autres. Mais l'amour n'est pas inconvenant. Et même si on est parfois un peu rustre, si on aime, on va quand même respecter, faire attention à l'autre. Il est dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Donc l'amour est désintéressé. Littéralement, on pourrait traduire par l'amour ne se recherche pas lui-même. Donc l'amour va être tourné vers le bien de l'autre. Et c'est ce qu'on inculque à nos enfants quand on les éduque. Parce qu'au départ, les enfants sont servis et ils héritent toujours de la plus grosse part de Bruni. C'est pas juste. Hein. Et puis, et c'est normal, eux, ils voient que leur intérêt. Petite Loïse a dit, c'est celui-là que je veux. Et puis, petit à petit, on commence à leur montrer qu'ils peuvent peut-être aussi sacrifier leur intérêt. Et là, j'étais très content de voir Kétia qui prenait une part plus modeste. Et puis, on progresse encore. Et ils devraient peut-être, enfin qu'ils peuvent, mais ils devraient chercher l'intérêt de l'autre. Et finalement, on progresse encore quand ils comprennent que aimer, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Et là, voilà. Et quand on transpose ça à la vie, aux hommes, aux relations, on voit que parfois il y a des adultes, c'est des enfants. C'est toujours à moi la plus grosse part et peu d'égards finalement. Pour les autres. Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors quel est mon intérêt? Quel est celui de mon frère, celui de ma sœur? C'est ça, aimer. L'amour ne s'irrite point. Et on ne se rend pas toujours compte de ce qui peut être caché derrière, dans le cœur. Et j'aimerais qu'on pense juste quelques instants au fils prodigue. Donc le fils prodigue, il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Il part avec son héritage, le père le lui donne. Il va tout dilapider, gaspiller dans une vie de débauche. Et puis là, il tombe à genoux, en pleurs, j'imagine, repentant. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon père, je vais dire, pardon mon père, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. Et alors c'est ce qu'il fait. Et puis il revient, et là son père qui l'accueille, le père tue le veau gras, il dit faisons la fête, on met des souliers, une bague de noix, il est tout heureux d'accueillir son fils. Et c'est là qu'intervient dans l'histoire le fils aîné. C'est un fils serviable, un fils volontaire, un fils travailleur, moral. Lui, il n'est pas allé dans je voterai dans la débauche. Hein. Un fils obéissant. Vu de l'extérieur, il est irréprochable, c'est une bonne personne. Mais quand le petit frère revient, alors là, c'est comme un révélateur. Et qu'est-ce que ça va révéler? D'un seul coup, le fils obéissant, serviable, aimable, etc., il va révéler quoi? De la jalousie, de l'orgueil, de la dureté, de la colère, de la propre justice. Tout ça, c'était dans son cœur. Le fils est irrité. Irrité contre son frère, irrité contre son père. Et c'est troublant de voir combien des bonnes œuvres et beaucoup de serviabilité parfois cachent de la haine au lieu de l'amour. Il est dit ensuite, l'amour ne soupçonne point le mal. Et c'est une grande qualité que d'accorder le bénéfice du doute. Parce que parfois, on a preuve d'une chose, on a juste un oui-dire, on a entendu. Et le oui-dire suffit à nous donner une opinion tranchée et puis à condamner. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne veut pas croire au mal. On lui dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai du mal à le croire, je n'y arrive pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il n'y a que si c'est avéré, un fait, c'est concret, ou là, on est obligé de reconnaître. C'est pour ça que Paul dit, le premier qui part dans sa cause paraît juste. Il y a sa partie adverse et à ce moment-là, on l'examine. Et c'est vrai que avant de connaître vraiment une chose, voilà, il faut connaître tous les détails avant de se faire une opinion et de fixer, de juger ou de dire une chose. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et j'aimerais vous lire juste Parole vivante, qui est intéressante, qui dit, donc Parole vivante reprend ce verset, mais l'explique avec toutes les autres versions de la Bible que l'on peut trouver. Et il dit, découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et il se réjouit lorsqu'elle triomphe. Donc l'amour veut que la vérité de Dieu triomphe dans les vies et dans les cœurs. Que la vérité de Dieu triomphe. Mais ce verset ne veut pas dire que l'amour se réjouit de la vérité au détriment de la personne. Mais que, là, il n'est pas question d'aimer la vérité. Le sujet, c'est d'aimer avant tout la personne, en fait. Et on se réjouit quand on voit la vérité triompher, en fait, dans la vie d'une personne. L'amour va être attristé quand il voit son frère, sa sœur qui tombe, qui est tombé, et puis il va se réjouir quand il va voir son frère ou sa sœur qui se relève, son frère ou sa sœur qui se repent. Et il se réjouit, il est dans la joie. Alors que celui qui n'aime pas, il ne voit que le mal, il ne voit que l'injustice, et c'est ça qu'il veut retenir. Il se focalise sur ça, et rien sur ça. Paul continue. Il dit « l'amour excuse tout ». Et c'est intéressant parce que le mot grec qui est employé ici, c'est le même mot que pour une toiture de maison. Et cette toiture, elle vient protéger, elle vient garder, elle vient couvrir tout ce qui se passe dans la maison. Elle va endurer même les agressions extérieures, hein, donc des éléments, des tempêtes, les pluies, les vents, et elle va protéger ce qui est sous elle. Et c'est donc dans ce sens que Paul emploie ce mot. L'amour va protéger aussi celui qui aime, celui qui aime. Comment ? L'amour va réfléchir, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas des raisons ? Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes ? L'amour va essayer de se placer à la place de la personne, essayer de vivre ce qu'elle a vécu. Il va essayer de comprendre l'autre, essayer de se placer à la place de l'autre. Il va essayer de protéger d'une certaine manière. Celui qui n'aime pas, il va même donner un coup de talon à celui qui est par terre. T'es par terre, vas-y, je t'en donne un autre. Et reste par terre. Voilà. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour accorde sa confiance. Et le terme, si c'est vraiment pisteo, c'est la foi. L'amour a foi dans la personne qu'il aime. Elle veut avoir foi, elle a foi. Ça veut dire qu'elle va donner sa confiance. Et là encore, j'aimerais qu'on pense à notre Seigneur. Parce qu'on pourrait dire, mais croire en l'homme, lui faire confiance, c'est impossible. Et c'est vrai. Il y a des versets qui disent « maudit l'homme qui se confie en l'homme hein. ». Mais quand on regarde le Seigneur, eh bien, il nous accorde d'une certaine manière de nouveau sa confiance et sans cesse. Et combien de fois on a trahi sa confiance hein. Il nous a redonné sa confiance et puis ben, on est retourné. Malgré ça, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et il recommence. Et c'est vrai qu'on a besoin de la confiance des autres pour réussir à croire, à se développer, à grandir. Les enfants ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et les adultes ont besoin qu'on leur fasse confiance. C'est pareil. Ils ont besoin qu'on croit en elles. On ne peut pas se développer harmonieusement s'il n'y a pas la confiance. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et c'est lié avec l'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Ça veut dire l'amour veut croire au progrès, veut croire au changement de l'autre. Et c'est pour ça qu'il va replacer sa confiance, il va croire de nouveau, parce qu'il va espérer de nouveau. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous pouvons être parfois avec les hommes on aurait tendance à dire, bon, celle-là ou celui-là, j'ai compris, hein, c'est bon, ça. Un kilomètre de distance, hein. Terminé. Si le Seigneur faisait ça avec nous, ce serait terrible. Et nous aussi, on a besoin eh bien, de réouvrir la porte. Dieu a fait tomber le mur d'inimitié, il est dit, dans l'Église. Et parfois, on rebâtit les murs autour de nous. Parce que le Seigneur veut. L'amour espère. L'amour ose l'espérance. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Chaque fois que je prie, je lis ce titre et ça me fait du bien. Je trouve ça une belle expression. Oser l'espérance. Et c'est vrai que aimer, c'est prendre un risque. Quand on aime, on prend un risque. Parce que quand on aime, on lève la garde. Et peut-être qu'on a pris un coup, et on peut encore prendre un coup, c'est possible. Peut-être pas. Et donc, aimer, c'est prendre un risque. Mais le Seigneur veut qu'on ose l'espérance, qu'on ose encore, qu'on croit encore, hein, qu'on espère tout, qu'on espère des jours meilleurs, qu'on espère un changement, qu'on espère une transformation. C'est possible par Jésus-Christ. L'amour supporte tout. Ici, c'est un mot qu'on connaît, c'est hypomoné, donc c'est rester au-dessous de quelque chose qui est difficile. Et parce que l'amour, c'est intéressant, l'amour, tu dis, premièrement, c'est patient, et termine, l'amour persévère. Et parce que l'amour est patient, alors l'amour va aussi supporter. Il va aussi endurer. Il va persévérer. Et aimer vraiment quelqu'un, c'est patienter. À l'égard de cette personne. On patiente, on attend que voilà, qu'il y ait une progression, qu'il y ait un changement. Et parfois, il faut supporter ça. Mais ce n'est pas difficile pour celui qui aime vraiment. Celui qui n'aime pas, il va s'impatienter, il ne va plus supporter. Alors que celui qui aime, il va patienter. Et puis, il va laisser du temps au temps que Dieu fasse son œuvre. Et c'est intéressant de remplacer, je vous l'avais déjà fait dans le passé, ça, de remplacer l'amour par Christ. Quand vous lisez le passage, eh bien, vous pouvez dire Christ est patient. Christ est plein de bonté. Christ n'est point envieux. Christ ne se vante point. Christ ne s'enfle point d'orgueil. Christ ne fait rien de malhonnête. Christ ne cherche point son intérêt. Christ ne s'irrite point. Christ ne soupçonne point le mal. Christ ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Christ excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Maintenant, c'est intéressant de remplacer par « je ». Lisez-le en mettant « je » et en pensant à vous. « Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis point envieux. Je ne me vante point. Je ne m'enfle point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne m'irrite point. Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte. Et quand on lit ça comme ça, eh bien, on sait où on en est. On sait exactement ce qui ne va pas dans notre cœur. Et on sait là où, là, il y a une vraie faiblesse. Et ici, il y a une autre faiblesse. Et là, ben, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Et on peut dire que cet amour-là, il est au-delà de notre portée, en fait. Hein. C'est... On peut sacrifier nos biens. On peut livrer notre corps même pour être brûlé. Ça, c'est possible. On peut accepter des grands sacrifices. Mais aimer comme ça, ça c'est impossible. Impossible. Et on comprend une chose, c'est que si on peut aimer de cette manière, c'est parce que Jésus-Christ nous a d'abord aimé le premier. Et quand Jean dit, il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est-à-dire parce que eh bien, Jésus m'a aimé, parce qu'il est mort pour moi, parce qu'il a donné sa vie, s'est offert en sacrifice, quand moi, eh bien, je viens à lui et je dis, Seigneur, pardonne-moi et viens, entre dans mon cœur, alors eh bien, lui peut venir aimer au travers de moi, au travers de lui. Et c'est simplement quand vraiment se donne à Jésus-Christ qu'alors, eh bien, il peut insuffler cet amour, il peut donner cet amour. Ensuite, il faut marcher. Parce qu'on peut avoir reçu Christ, mais si on ne marche pas, eh bien, il n'y a rien. Il faut marcher avec le Seigneur. Et c'est intéressant de voir qu'on peut aussi recouper 1 Corinthiens 13 avec Galates 5, 22. Vous savez, le fruit de l'esprit. Finalement, on retrouve beaucoup, hein. Ça se lit ensemble. Et qu'est-ce qui permet d'aimer? C'est de marcher avec Jésus. C'est de marcher par l'esprit. Alors, il y a le fruit de l'esprit. Et alors, il va y avoir l'amour, il va y avoir la bonté, il va y avoir la bienveillance, il va y avoir la patience, il va y avoir toutes ces choses qui sont... Mais si on est vraiment en communion avec le Seigneur, alors on va aimer les frères et sœurs. C'est ce que dit Jean dans son épître. Il ne peut pas en être autrement. Et je termine ici. Aimer Dieu, aimer son prochain, il n'y a rien de plus important que cela. Et Paul dit, mais les dons sont illusoires. Il dit clairement, ils sont passagers. C'est des choses passagères, tandis que l'amour, lui, c'est quelque chose d'éternel. Et quand on va passer de l'autre côté, quand on va mourir, à ce moment-là, on va passer dans le feu, tout va être consumé, tout ce qui n'est pas au Seigneur, et il va rester une chose. C'est simplement l'amour qu'on aura manifesté à l'égard des uns et des autres. Il ne restera que ça, l'amour. Tout le reste va être consumé. C'est pour ça que Paul dit que c'est une voie par excellence, que c'est la plus grande chose qui soit. Et je termine juste en disant, on ne va pas revivre le 18 mai 2014. Aujourd'hui. On ne va pas revivre le 18 mai 2014. Il n'y aura que cette journée 2014, en sorte que ce que nous aurons fait ou dit, eh bien, on n'aura pas une deuxième chance de le refaire ou de le renouveler. Et quand on regarde toutes les années passées, tout ce qu'on a vécu, on ne reviendra jamais en arrière. On ne pourra pas reconstruire. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que là où on a vraiment aimé. On a vraiment manifesté de l'amour pour Dieu, de l'amour pour notre femme, de l'amour pour nos enfants, de l'amour pour nos frères et sœurs, de l'amour pour notre voisin, pour notre prochain. Il ne reste que ça. Ça veut dire qu'il ne restera aujourd'hui que l'amour qui aura été vraiment manifesté. Alors qu'on puisse, Seigneur, manifester encore son